Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Nouvel appel du pape François en faveur des réfugiés. Au terme de l'audience générale, le Saint-Père a exhorté à soulager leurs souffrances en se faisant proche d'eux, en partageant leurs peurs et leurs incertitudes. Auparavant, le pape avait débuté un nouveau cycle de catéchèses sur l'Église. La salle de presse du Saint-Siège a publié le programme du voyage du pape François en Corée du Sud, un déplacement qui aura lieu du 13 au 18 août prochain à l'occasion de la 6e journée de la jeunesse asiatique. Tous les détails dans quelques instants. Témoignage également dans cette édition de la lauréate du prix de la Fondation Ratzinger Benoît XVI. Il s'agit de la bibliste française Anne-Marie Pelletier. C'est la première femme à recevoir cette distinction. Bienvenue dans ce magazine. Soyons proches des réfugiés dont le nombre ne cesse d'augmenter. C'est le vibrant appel lancé par le pape François ce mercredi au terme de l'audience générale, deux jours avant la journée mondiale du réfugié. Ces derniers jours, plusieurs milliers de personnes ont encore été amenées à quitter leur foyer pour se sauver, souligne le Saint-Père. Des millions de familles réfugiées de tant de pays, de toutes les religions, vivent des drames, des blessures qui difficilement pourront être guéries. Soyons proches d'eux en partageant leurs peurs et leurs incertitudes pour le futur, en soulageant concrètement leurs souffrances. Le pape a souhaité que le Seigneur soutienne les personnes et les institutions qui travaillent avec générosité pour assurer accueil et dignité aux réfugiés et pour leur donner des raisons d'espérer. Jésus a été un réfugié, a-t-il conclu, il a dû fuir pour sauver sa vie. Parmi les nombreux pays d'accueil, le Liban, qui selon l'ONU est la nation qui compte le plus de réfugiés par habitant, des réfugiés essentiellement syriens, ils sont aujourd'hui près d'1 million sur le sol libanais, ce qui n'est pas sans conséquences pour le pays. Nous en parlons avec le père Paul Karam, président de la Caritas Liban.
Les réfugiés, ils sont partout. Donc c'est très grave pour le petit Liban, vu sa superficie et la densité de la population. Avec les autres 500 000 Palestiniens et à peu près les 450 000 travailleurs étrangers, on arrive au-delà du un quart de la population libanaise. Ça touche notamment le côté de sécurité, le côté économique et le côté social. Ça touche aussi le côté sanitaire avec tout le service que Caritas essaye au moins dans nos centres d'offrir aux réfugiés. Et en plus, on commence à sentir des tensions entre la population parce que le chiffre devient énorme et les services qui sont octroyés aux Syriens ne sont pas accessibles aux Libanais. Même les Syriens parfois deviennent de plus en plus violents, ils n'acceptent pas n'importe quoi. Donc on est en train de rencontrer des cas comme ça dans nos centres et les infirmières et les assistantes sociales viennent nous raconter tout cela.
Et après, quelles actions vous menez pour essayer justement qu'il y ait moins de tensions entre les Libanais et les réfugiés syriens ?
Nous, en tant que Caritas, nous essayons d'opter une certaine stratégie, bien sûr, de dialogue. Par exemple, on est en train de préparer dès maintenant à un camp qui va regrouper des jeunes libanais et syriens. Donc on se table sur cet aspect, la jeunesse qui est en train de s'ouvrir au dialogue, d'accepter l'autre. Deuxièmement, on est en train, bien sûr, de rendre un service à tous les Syriens réfugiés gratuitement dans les centres sanitaires, avec les consultations de médecins, le suivi, les médicaments et autres. Ça, parfois, ça laisse une sorte de petite tension entre Libanais et Syriens. Pourquoi ? Parce que le Libanais, il est en train de contribuer pour ce service, mais le Syrien, tout lui a été présenté gratuitement. Donc, on est en train d'assumer nos responsabilités, mais les moyens deviennent de plus en plus limités. C'est vraiment une vraie crise.
Et qu'est-ce que vous avez prévu concrètement comme projet d'aide pour le futur ?
Avant tout, il faut arrêter cette guerre. La guerre, à mon avis, ne résout jamais les problèmes. Elle les aggrave. Morts, réfugiés, disparus, etc. Destruction. Tout cela, c'est le résultat de la guerre. il y a aussi le chemin de réconciliation à faire après la guerre. Deuxièmement, il faudra trouver une solution pour tous les réfugiés qui se trouvent sur le territoire, surtout le Liban. D'où la question incessante prononcée par les patriarches et les évêques en disant qu'il faut ou bien penser à faire des camps dans des zones sécurisées à l'intérieur de la Syrie. Si cela est impossible, au moins penser à une autre alternative qui est de faire des camps sur la frontière libano-syrienne pour un peu garantir la sécurité et le suivi. Ce sont deux choses extrêmement importantes. Plusieurs ONG nous parlent en disant qu'il y a à peu près entre 25 jusqu'à 35% des réfugiés qui viennent profiter de ce service qui s'offre aux réfugiés au Liban. Ceux-là viennent des régions sécurisées et non pas de régions de guerre. Donc ça augmente l'afflux et l'entrée des réfugiés. Une autre chose que le gouvernement libanais doit assumer à tout prix, c'est de contrôler les frontières. Il faut être humain, mais il faut aussi voir quelles sont les capacités de ce pays. Prenons l'exemple de la Jordanie qui a contrôlé et a fait des camps, ou bien l'exemple de la Turquie qui a fait des camps pour contrôler. On rend un service humanitaire, mais on le rend avec plus de contrôle, pour éviter tout l'aspect d'insécurité.
Le père Paul Karam, président de la Caritas Liban, au micro d'Audrey Radondi. Le pape François a ouvert ce mercredi, lors de l'audience générale, un nouveau cycle de catéchèses, un cycle consacré à l'Église. Après avoir salué un groupe de malades, celle Paul VI, le Saint-Père a rejoint la place Saint-Pierre. Devant des dizaines de milliers de fidèles, il a dit vouloir parler de l'Église comme un fils qui parle de sa propre mère, de sa propre famille. Il s'est ensuite longuement attardé sur l'histoire de l'Église, rappelant qu'elle n'est pas une institution qui a une fin en soi, elle est un peuple formé par Dieu. Cyprien Viette.
L'Église n'est pas une association privée ou une ONG et il ne faut surtout pas la réduire au clergé et au Vatican. L'Église, c'est nous tous, a lancé le pape. Elle est une réalité beaucoup plus vaste qui s'ouvre à toute l'humanité et qui n'est pas née à l'improviste en laboratoire. Elle est fondée par Jésus, mais elle est un peuple avec une longue histoire derrière elle et une préparation qui commence bien avant Jésus lui-même. Cette histoire ou préhistoire de l'Église débute, indique le Saint-Père dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu choisit Abraham et il lui demande de partir vers une autre terre, lui promettant une descendance nombreuse. À partir de lui, Dieu forme un peuple pour porter sa bénédiction à toutes les familles de la terre. Et c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative, car son amour précède tout. Il précède Abraham, il précède aussi Adam. Cependant, ajoute le pape François, même si le peuple se met en marche, il y a dès le début des résistances. Il y a les trahisons et les péchés qui marquent le cheminement du peuple tout au long de l'histoire du salut. Mais Dieu est patient, il continue à l'éduquer comme le fait un père avec son fils. Et c'est la même attitude qu'il maintient face à l'Église. Nous aussi, dans notre volonté de suivre Jésus, nous faisons l'expérience chaque jour de l'égoïsme et de la dureté de notre cœur. Mais si nous nous reconnaissons pécheurs, Dieu nous remplit de sa miséricorde et de son amour. Et c'est cela, justement, qui nous fait grandir comme peuple de Dieu, comme Église.
Le programme du voyage du pape François en Corée du Sud a été rendu public ce mercredi par la salle de presse du Saint-Siège. Le Saint-Père se rendra pour la première fois en Asie du 13 au 18 août à l'occasion de la 6e journée de la jeunesse asiatique. Un voyage apostolique qui sera donc placé tout d'abord sous le signe de la jeunesse des pays d'Asie, mais aussi sous celui de l'hommage que l'Église rendra aux martyrs de Seo Somun. Xavier Sartre.
Une dizaine de discours et d'homélies, des rencontres avec les jeunes asiatiques, le clergé et les autorités, le programme du pape François en Corée du Sud est assez dense. Concernant tout d'abord les jeunes, premier motif de ce voyage, le pape rencontrera pour la première fois lors d'un déjeuner le jour de l'Assomption, avant de passer une partie de l'après-midi avec eux. Il célébrera ensuite dimanche la messe de clôture de la journée de la jeunesse asiatique. Deuxième grand rendez-vous au programme, la messe de béatification de 124 martyrs coréens tués pour leur foi au cours du 19e siècle. En 1984, Jean-Paul II avait canonisé une centaine d'autres martyrs, symboles de cette église catholique coréenne dont l'histoire est mouvementée. Au-delà des rencontres plus classiques, comme celle avec les autorités du pays hôte ou celle avec les autorités religieuses ou le clergé national, le pape se rendra aussi en Corée du Sud avec une parole de paix et de réconciliation pour une péninsule toujours divisée depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Il célébrera ainsi, avant de retourner au Vatican, une messe pour la réconciliation à la cathédrale de Séoul. Un dernier message plus politique.
Un programme que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Je vous en parlais dans notre précédent magazine. Une Française, la bibliste Anne-Marie Pelletier, est la première femme lauréate du prix de la Fondation Ratzinger Benoît XVI, créée en 2010. Outre son travail d'exégèse, cette mère de trois enfants, agrégée de lettres modernes, docteur en sciences des religions, s'est également illustrée ces dernières années à travers une réflexion sur le rôle et la place des femmes dans l'Église et dans le christianisme. Elle recevra cette distinction, considérée comme un prix Nobel de la théologie, le 22 novembre prochain au Vatican. Manuela Figi a recueilli sa réaction.
Un grand étonnement, une grande surprise, avec bien sûr de la gratitude, mais je me dis que tellement d'autres, et en particulier tellement d'autres femmes, auraient d'autres titres à faire valoir que moi. Alors voilà, je me dis pourquoi moi. J'ai grande admiration pour ce que vivent les femmes, d'une façon générale et dans l'Église en particulier. Et c'est pour ça que, recevant cette distinction, je pense aux autres et j'étends l'honneur qui m'est fait aux autres femmes dans l'Église.
En vous conférant ce prix, la Fondation Ratzinger a voulu saluer de manière particulière vos travaux sur le rôle et la place de la femme dans l'Église et dans le christianisme. Est-ce que, par rapport à cette thématique très sensible et très importante, est-ce que vous avez pu noter une évolution des mentalités au cours de ces dernières années ?
Ma réponse est résolument positive. Alors, je sais bien que beaucoup d'autres femmes, et moi quelquefois, ont le sentiment de certains piétinements, parfois même de recul. Mais je crois qu'il faut être attentif à ce qui se passe au fil des années et qui fait que les femmes sont tout de même de plus en plus reconnues dans l'Église pour ce qu'elles font. Et du coup, elles reçoivent des responsabilités qui n'étaient pas pensables il y a encore quelques décennies. Des femmes enseignent aujourd'hui. Et des femmes enseignent à des séminaristes. Donc elles contribuent à la formation de ce qui sera le clergé de demain. Des femmes sont chercheuses en théologie et donc là aussi apportent une contribution, me semble-t-il, importante parce qu'on ne pense pas exactement de la même manière quand on est homme et quand on est femme. On fait la même théologie, en même temps une théologie un petit peu différente. Et puis je constate qu'à des postes de responsabilité, dans l'Église de France par exemple, dans l'espace de ces derniers jours, je vois des femmes qui sont nommées à des postes importants. Tout récemment, l'amitié judéo-chrétienne vient d'être confiée à Jacqueline Kuch, qui remplace un prêtre. Alors, il ne s'agit pas de prendre la place les uns des autres. Je ne suis pas du tout dans cette logique de pouvoir et même de redistribution des places. Mais je crois que ça veut dire quelque chose de l'ordre d'une reconnaissance et d'une confiance qui est faite aux femmes.
L'été dernier, dans l'avion qui le ramenait de Rio à Rome, le pape François avait exprimé le souhait que les femmes aient un rôle plus décisif dans l'Église. Comment interprétez-vous cette déclaration ?
J'ai reçu bien sûr là aussi avec gratitude ces mots du pape François qui me semblent intéressants d'autant plus que nous ne partons pas de rien. C'est-à-dire qu'un texte comme Mulieris Dignitatem à la fin du siècle dernier a marqué une date importante, donc une évolution s'est amorcée. En même temps, le pape François arrive et il semble tout remettre à plat d'une certaine manière et nous dire « voilà, il y a un chantier à ouvrir ». Ce qui veut dire que des choses ont été faites, mais il en reste encore beaucoup à faire. Cette place décisive pour moi, telle que je la comprends en lisant le pape François, justement, ce n'est pas simplement une question de poste hiérarchique, de reconnaissance institutionnelle. Alors, il y a ça, certainement, mais il y a aussi, dans mon esprit, et je pense être à peu près fidèle à ce que lui-même nous dit, il y a la nécessité que nous arrivions à penser une ecclésiologie intégrale, où les femmes aient une place et leur place plénière, et jouent le rôle de signe, finalement, de ce qu'est la vie chrétienne dans sa réalité la plus fondamentale, de ce qu'est la vie baptismale.
Anne-Marie Pelletier, autre lauréat 2014 du prix de la Fondation Ratzinger Benoît XVI, Monseigneur Waldemar Schrotowski, primé pour ses travaux sur l'Ancien Testament et les relations avec le judaïsme. Il s'agit du premier théologien polonais à recevoir cette distinction. Monseigneur Philippe Mousset a été nommé par le pape François évêque de Périgueux et Sarlat. Il était jusqu'à présent évêque de Pamiers et succède à Monseigneur Michel Mouys, dont le Saint-Père a accepté la démission pour limite d'âge. Monseigneur Mousset a suivi des études techniques agricoles avant d'entrer à 25 ans au séminaire. Ordonné prêtre en mai 1988 pour le diocèse de La Rochelle et Saintes, il a été vicaire, curé de paroisse et responsable de la pastorale des jeunes à La Rochelle. Il a été nommé évêque en janvier 2009 et est aujourd'hui, au sein de la Conférence des évêques de France, membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles. On reste en France où le gouvernement a dévoilé mardi la nouvelle carte des 1300 quartiers les plus pauvres du pays. Une carte dessinée à partir d'un seul critère, le revenu des habitants. Résultat, la France compte deux fois moins de quartiers pauvres. Des communes du Nord et d'Île-de-France restent sans surprise sur la carte et parmi celles qui font leur apparition, certaines sont en pleine zone rurale. Ces communes, 700 au total, pourront bénéficier d'aides spécifiques de l'État. Mais que nous apprend cette nouvelle carte sur le niveau de pauvreté en France? Nous avons interrogé Bernard Schrick, il est le directeur de l'Action France-Europe au Secours catholique Caritas France.
Le niveau de pauvreté, si on prend comme seul indicateur l'indicateur des ressources, on voit que la pauvreté continue de s'accroître. On voit aussi, et c'est souvent le corollaire, que les inégalités continuent de se creuser. Et finalement, des territoires les plus pauvres monétairement en ayant un seul indicateur pour définir cette carte qui est un seuil de ressources. En même temps, si on veut que des politiques de développement local, des politiques de rénovation urbaine et de l'efficacité, il est à la fois important de prendre en compte ce paramètre financier, mais de prendre aussi en compte d'autres paramètres comme l'isolement. On sait que l'exclusion, c'est l'addition d'un manque de moyens matériels avec un manque de soutien et de relations. Et donc c'est important de cibler plus précisément l'action publique sur des territoires dans lesquels la pauvreté monétaire est importante. Mais il faut que les moyens de mise en œuvre restaurent à la fois du développement économique, mais aussi du lien social. Sinon, on ne fera que déplacer les difficultés des habitants de ces territoires.
Donc selon vous, le fait de prendre seulement en compte le revenu donc des habitants n'est pas suffisant pour être représentatif de la pauvreté aujourd'hui en France.
C'est un indicateur pertinent pour définir des priorités territoriales. Par contre, pour imaginer à partir des budgets mobilisables, une fois qu'on est retenu dans ces territoires, des projets qui luttent réellement contre l'exclusion, il faut à ce moment-là, je dirais dans une seconde étape, prendre en compte d'autres paramètres, l'accessibilité aux services, les possibilités pour les personnes d'accéder à leurs droits, la présence associative existante ou à développer sur le territoire, la présence d'acteurs économiques. Il ne suffit pas d'avoir un indicateur pour identifier les zones les plus pauvres au plan monétaire, pour avoir une stratégie qui permette de changer la situation. Pour changer la situation, il faut prendre en compte une observation bien plus large, et notamment une observation assez fine de ce que constituent les liens sociaux.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. En Guyane, la justice somme le département de continuer à payer les prêtres. Le tribunal administratif de Cayenne a suspendu la décision du Conseil général qui avait cessé fin mai de payer le clergé catholique en dépit du droit local. La Guyane française a en effet une particularité, c'est le département qui rémunère les prêtres catholiques. La loi de séparation des églises et de l'État de 1905 n'y est pas appliquée, pas plus que le concordat. Depuis le mois dernier, 26 des 38 prêtres du diocèse ne touchent plus les 1500 euros mensuels qui constituent leur traitement. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité.